Germaine de Staël, Delphine. Lettre 18 à 22 comprise. Lettre 18. Cette lettre est celle que Mademoiselle d'Albémare a fait parvenir à Delphine. Léonce à Monsieur Barton. Bayonne, 17 mai 1790. Je crains, mon cher ami, que vous ne soyez déjà parti sur la nouvelle de mon accident, et lorsque vous aurez su que j'avais témoigné le désir de vous voir. J'aurais dû vous épargner la fatigue d'un tel voyage, mais vous pardonnerez à votre élève le besoin qu'il avait de vous dire adieu au moment de mourir. Si vous êtes encore à Paris, attendez-moi, je serai en état de voyager sous peu de jours. On me défend de parler, de peur que mes blessures à la poitrine ne se rouvrent. J'ai du temps, au moins, pour vous écrire tout ce qui tient à l'événement dont vous seul devez connaître le secret. Je sais quel est le furieux qui a voulu m'assassiner et qui m'a attaqué. Ayant pour second son domestique, sans me laisser aucun moyen de me défendre. Il m'a dit avec fureur en me poignardant, « Je venge ma sœur déshonorée. » J'aurais nommé l'auteur de cette action infâme si les motifs qui l'ont irrité contre moi ne méritaient une sorte d'indulgence. Vous les savez, ces motifs, et vous devinez mon assassin. Mon cousin, en se soumettant à mes conseils, les a suivis néanmoins de la manière du monde la plus faible et la plus inconséquente. Il m'a prouvé qu'il ne faut jamais faire agir un homme dans un sens différent de son caractère. La nature place des remèdes à côté de tous les maux. L'homme faible ne hasarde rien. L'homme fort soutient tout ce qu'il avance. Mais l'homme faible, conseillé par l'homme fort, marche, pour ainsi dire, par saccades. Entreprend plus qu'il ne peut. Se donne des défis à lui-même. Exagère ce qu'il ne sait pas imiter. Et tombe dans les fautes les plus disparates. Il réunit les inconvénients des caractères opposés, au lieu de concilier avec art leurs divers avantages. Charles de Mondeville a laissé pénétrer à la famille de Mademoiselle de Sorane qu'il suivait mes avis presque malgré lui. C'est ainsi qu'il a dirigé sur moi toute leur haine. Monsieur de Sorane a été obligé de faire un très mauvais mariage à sa sœur pour étouffer le plus promptement possible l'éclat de son aventure. La crainte de ce même éclat l'a empêché de se battre avec moi. Il a regardé l'assassinat comme une vengeance plus obscure et plus certaine, et il avait imaginé, sans doute, que si j'étais tué dans les montagnes des Pyrénées, on attribuerait ma mort à des voleurs français ou espagnols, qui sont en assez grand nombre sur les frontières des deux pays. Si je ne savais pas que M. de Sorane a été réellement très malheureux de la honte de sa sœur, s'il n'avait pas raison de m'accuser de la résistance de mon cousin à ses désirs, je livrerais son crime à la justice des lois. Mais, m'étant vu forcé par un concours funeste de circonstances à sacrifier la réputation de Mademoiselle de Sorane à l'honneur de ma famille, j'ai cru devoir taire le nom d'un homme qui n'était devenu mon assassin que pour venger sa sœur. Sa haine contre moi était naturelle. Le mal que je lui avais fait tenait peut-être à un défaut de mon caractère. Vous m'avez souvent dit que l'opinion avait trop d'empire sur moi. S'il est vrai que M. de Sorane est réellement à se plaindre de ma conduite, je lui dois le secret sur un crime que j'ai provoqué. Je le lui ai gardé, il vous sera sacré, comme à moi-même. Mais je le prévois, mon cher Barton, tremblant encore du danger que j'ai couru. Vous aurez une aimable colère contre votre élève, pour avoir exposé si légèrement cette vie dont vous et ma mère daignez avoir besoin. Cette pensée m'est venue, non sans quelque regret, lorsque je me croyais près de mourir. Peut-être aurais-je pu laisser mon parent à lui-même, quoiqu'il fût de mon sang, quoiqu'il portât mon nom. Mais je vous le demande à vous, qui avez bien plus de modération que moi dans votre manière de juger, et qui n'attachez pas autant d'importance à ce qu'on peut dire dans le monde. Si je m'étais trouvé dans la même situation que Charles de Mondeville, n'auriez-vous pas été le premier à me détourner d'épouser une femme généralement mésestimée, quand même je l'aurais aimée? Pendant les jours que je viens de passer entre la vie et la mort, j'ai réfléchi beaucoup à ce que vous m'avez constamment dit sur la nécessité de ne soumettre sa conduite qu'au témoignage de sa conscience et de sa raison. Vous êtes chrétien et philosophe tout à la fois. Vous vous confiez en Dieu et vous comptez pour rien les injustices des hommes. J'ai peu de disposition, vous le savez, à aucun genre de croyance religieuse, et moins encore à la patience et à la résignation que la foi, dit-on, doit nous inspirer. Quoique j'aie reçu, grâce à vous, une éducation éclairée, cependant, une sorte d'instinct militaire, des préjugés, si vous le voulez, mais les préjugés de mes aïeux, ceux qui conviennent si parfaitement à la fierté et à l'impétuosité de mon âme, sont les mobiles les plus puissants de toutes les actions de ma vie. Mon front se couvre de sueur quand je me figure un instant que même à 100 lieues de moi, un homme quelconque pourrait se permettre de prononcer mon nom ou celui des miens avec peu d'égard et que je ne serais pas là pour m'en venger. La plupart des hommes, dites-vous, ne méritent pas qu'on attache le moindre prix à leur discours. Leur haine peut n'être rien, mais leur insulte est toujours quelque chose. Ils s'égalent à vous. Ils font plus. Ils se croient vos supérieurs quand ils vous calomnient. Faut-il leur laisser goûter en paix cet insolent plaisir? Avez-vous d'ailleurs réfléchi sur la rapidité avec laquelle un homme peut se déconsidérer sans retour? S'il est indifférent aux premiers mots qu'on hasarde sur lui, si sa délicatesse supporte le plus léger nuage, quel sentiment l'avertira que c'en est trop? D'abord, de faux bruits circuleront, et ils s'établiront bientôt comme vrais dans la tête de ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il s'en héritera, mais trop tard. Quand il se hâterait de chercher 20 occasions de duel, des traits de courage désordonnés, rétabliront-ils la réputation de son caractère? Tous ses efforts, tous ses mouvements présentent l'idée de l'agitation, et l'on ne respecte point celui qui s'agite. Le calme seul est imposant. On ne peut reconquérir en un jour ce qui est l'ouvrage du temps. Et néanmoins, la colère, ne vous permettant pas le repos, vous rend incapable de trouver ou d'attendre le remède de votre malheur. Je ne sais ce qui peut nous être réservé dans un autre monde. Mais l'enfer de celui-ci pour un homme qui a de la fierté, c'est d'avoir à supporter la moindre altération de cette intacte renommée d'honneur et de délicatesse, le premier trésor de la vie. J'ai cessé de combattre en moi ces sentiments, je les ai reconnus pour invincibles. Toutefois, s'ils pouvaient jamais se trouver en opposition avec la véritable morale, j'en triompherais, du moins je le crois. Et c'est à vos leçons, mon cher maître, que je dois cet espoir. Mais dans toutes les résolutions qui ne regardent que moi seul, j'aurais tort de vouloir lutter contre un défaut que je ne puis braver qu'en sacrifiant tout mon bonheur. Il vaut mieux exposer 1000 fois sa vie que de faire souffrir son caractère. J'ose croire que je ne rends pas malheureux ceux qui m'entourent. Pourquoi donc voudrais-je me tourmenter par des efforts peut-être inutiles et sûrement très douloureux? La considération que je veux obtenir dans le monde ne doit-elle pas servir à honorer tous ceux qui m'aiment, Un homme n'est-il pas le protecteur de sa mère, de sa sœur et surtout de sa femme? Ne faut-il pas qu'il donne à la compagne de sa vie l'exemple de ce respect pour l'opinion qu'il doit à son tour exiger d'elle? Savez-vous pourquoi, jusqu'à présent, je me suis défendue contre l'amour, quoique je sentisse bien avec quelle violence il pourrait s'emparer de moi? C'est que j'ai craint d'aimer une femme qui ne fut point d'accord avec moi sur l'importance que j'attache à l'opinion, et dont le charme m'entraîna, quoique sa manière de penser me fît souffrir. J'ai peur d'être déchirée par deux puissances égales, un cœur sensible et passionné, un caractère fier et irritable. Ma mère a peut-être raison, cher Barton, en me faisant épouser une personne qui n'exercera pas un grand empire sur moi, mais dont la conduite est dirigée par les principes les plus sévères. Cependant, hélas, je vais donc, à 25 ans, renoncer pour toujours à l'espoir de m'unir à la femme que j'aimerais, à celle qui comblerait le vide de mon cœur par toutes les délices d'une affection mutuelle. Non, la vie n'est pas cet enchantement que mon imagination a rêvé quelquefois. Elle offre 1000 peines inévitables, 1000 périls à redouter, pour sa réputation, pour son repos, 1000 ennemis qui vous attendent. Il faut marcher fermement et sévèrement dans cette triste route, et se garantir du blâme en renonçant au bonheur. Après avoir lu cette lettre, serez-vous content de moi, mon cher maître? Songez, cependant, avec quelque plaisir, que votre élève n'a pas une pensée secrète pour vous, et que vos conseils lui seront toujours nécessaires. Léonce. Lettre 19. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Ce 27 mai. J'ai relu plusieurs fois la lettre où Léonce peint son propre caractère avec la vérité la plus parfaite. Vous n'avez pas conclu, je l'espère, de quelques lignes que je vous écrivis dans le premier moment, que mon estime pour M. de Mondeville fut le moins du monde altérée. Non, assurément, rien de pareil n'est vrai. Sa lettre à M. Barton indique au contraire des qualités rares et une grande supériorité d'esprit. Mais ce qui m'a frappé comme une lumière subite, c'est l'étonnant contraste de nos caractères. Il soumet les actions les plus importantes de sa vie à l'opinion. Moi, je pourrais à peine consentir à ce qu'elle influât sur ma décision dans les plus petites circonstances. Les idées religieuses ne sont rien pour lui. Cela doit être ainsi, puisque l'honneur du monde est tout. Quant à moi, vous le savez, grâce à l'heureuse éducation que vous et votre frère m'avez donnée, c'est de mon Dieu et de mon propre cœur que je fais dépendre ma conduite. Loin de chercher les suffrages du plus grand nombre par les ménagements nécessaires pour se les concilier, je serais presque tenté de croire que l'approbation des hommes flétrit un peu ce qu'il y a de plus pur dans la vertu, et que le plaisir qu'on pourrait prendre à cette approbation finirait par gâter les mouvements simples et irréfléchis d'une bonne nature. Sans doute, à travers l'irritabilité de Léonce sur tout ce qui se tient à l'opinion, il est impossible de ne pas reconnaître en lui une âme vraiment sensible. Néanmoins, ne regrettez plus, ma sœur, ses engagements avec Mathilde. Réjouissez-vous, au contraire, de ce qu'il ne sera jamais rien pour moi. Les oppositions qui existent dans nos manières d'être sont précisément celles qui rendraient profondément malheureux deux êtres qui s'aimeraient sans les détacher l'un de l'autre. Il me serait impossible, quelle que fût ma résolution à cet égard, de veiller assez sur toutes mes actions pour qu'elles ne prêtassent point aux fausses interprétations de la société. Et que ne souffrirais-je pas si celui que j'aimerais ne supportait pas sans douleur le mal que l'on pourrait dire de moi. Si j'étais obligé de redouter les jugements des indifférents à cause de leur influence sur l'objet qui me serait cher, de craindre toutes les calomnies parce qu'ils souffriraient de toutes, et de me courber devant l'opinion parce que j'aimerais un homme qui serait son premier esclave. Non, Léonce, ma chère Louise, ne convient pas à votre Delphine. Ah, combien les sentiments de votre généreux frère, mon noble protecteur, répondaient mieux à mon cœur. Il me répétait souvent qu'une âme bien née n'avait qu'un seul principe à observer dans le monde. Faire toujours du bien aux autres et jamais de mal. Qu'importe à celle qui croit à la protection de l'être suprême et vit en sa présence, à celle qui possède un caractère élevé et jouit en elle-même du sentiment de la vertu. Que lui importe, me disait M. d'Albémare, les discours des hommes. Elle obtient leur estime tôt ou tard, car c'est de la vérité que l'opinion publique relève en dernier ressort. Mais il faut savoir mépriser toutes les agitations passagères que la calomnie, la sottise et l'envie excitent contre les êtres distingués. Il ajoutait, j'en conviens, que cette indépendance, cette philosophie de principe, convenait peut-être mieux encore à un homme qu'à une femme. Mais il croyait aussi que les femmes étant bien plus exposées que les hommes à se voir mal jugées, il fallait d'avance fortifier leur âme contre ce malheur. La crainte de l'opinion rend tant de femmes dissimulées que pour ne point exposer la sincérité de mon caractère, M. d'Albémare travaillait de tout son pouvoir à m'affranchir de ce joug. Il y a réussi. Je ne redoute rien sur la terre que le reproche juste de mon cœur ou le reproche injuste de mes amis. Mais que l'opinion publique me recherche ou m'abandonne, elle ne pourra jamais rien sur ces jouissances de l'âme et de la pensée qui m'occupent et m'absorbent tout entière. Je porte en moi-même un espoir consolateur qui se renouvellera toujours tant que je pourrai regarder le ciel et sentir mon cœur battre pour la véritable gloire et la parfaite bonté. Ce bonheur ou ce calme dont je jouis, que deviendrait-il néanmoins si par un renversement bizarre, c'était moi, faible femme, moi dont la destinée réclame un soutien, qui savais mépriser l'opinion des homélies, tandis que l'être fort, celui qui doit me guider, celui qui doit me servir d'appui, aurait horreur du moindre blâme. Vainement, je tâcherais de me conformer à tous ses désirs, en adoptant une conduite qui ne me serait point naturelle. Je n'éviterai pas d'y commettre des fautes, et notre vie bientôt troublée aurait peut-être un jour une funeste fin. Non, je ne veux point aimer Léonce. Quand il serait libre, je ne le voudrais point. J'ai eu besoin de me le répéter, de relire sa lettre, de détruire, par de longues réflexions, l'impression que m'avait faite le danger qu'il vient de courir. Mais j'y suis parvenue. Mon âme s'est affermie, et je puis le voir maintenant avec le plus grand calme et la plus ferme résolution de ne considérer désormais en lui que l'époux de Mathilde. Lettre 20. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Ce 31 mai. Que vous disais-je dans ma dernière lettre, ma chère Louise? Il me semble que je vais le démentir. Je l'ai vu, Léonce. Ah, je n'ai plus aucun souvenir de ce que je pensais contre lui. Comment pouvais-je mettre tant d'importance à ce que j'appelais ses défauts? Pourquoi le juger sur une lettre? L'expression de son visage le fait bien mieux connaître. J'avais reçu hier une lettre de M. Barton, qui m'annonçait qu'il avait rencontré M. de Mondeville à Bordeaux et qu'ils reviennent ensemble. J'allais chez Mme de Vernon pour lui porter ses bonnes nouvelles. J'avais l'esprit tout à fait libre. La lettre de Léonce avait changé mes idées sur lui. Je ne sais pas pourquoi elle avait produit cette impression. En y pensant bien aujourd'hui, je trouve que c'était absurde. Mais enfin, Léonce n'était plus pour moi que le mari de Mathilde, le gendre de mon ami, et j'entretins pendant 2 heures Madame de Vernon de tout ce qui pouvait avoir rapport à ce mariage, avec un sentiment d'intérêt qui lui fit beaucoup de plaisir. Elle ne s'était pas doutée, je crois, des pensées qui m'avaient troublée pendant quelques jours. Mais la conversation ne s'était point prolongée sur Léonce, parce que je la laissais tomber involontairement. Tandis qu'hier, par je ne sais quelle sécurité, à la veille même du danger, j'étais inépuisable sur les motifs qui devaient attacher Madame de Vernon à ses projets pour sa fille. Je ne conçois pas encore d'où me venait ce bizarre mouvement. Je voulais prendre, je crois, des engagements avec moi-même, car cette vivacité ne pouvait pas être naturelle. Elle plut à Madame de Vernon, qui me pressa vivement de passer le lendemain, le jour entier avec elle. Après dîner, l'on annonça tout à coup M. Barton. Sa figure me parut triste. Je craignais quelque événement funeste, et je l'interrogeai avec crainte. « M. de Mondeville, nous dit-il, est arrivé hier avec moi. Mais en chemin, sa blessure s'est rouverte, et je crains que le sang qu'il a perdu ne mette en danger sa vie. Il est dans un état de faiblesse et d'abattement qui m'inquiète extrêmement. Il a repris la fièvre depuis 8 jours, et il est maintenant hors d'état non seulement de sortir, mais même de se tenir debout. Il voudrait, dit M. Barton en se retournant vers Madame de Vernon, vous remettre des lettres de sa mère. Il prend la liberté de vous demander de venir le voir. Il n'ose se flatter que Mademoiselle de Vernon consente à vous accompagner. Cependant, il me semble qu'à présent que les articles sont signés par Madame de Mondeville, il n'y aurait point d'inconvenance. Mathilde interrompit M. Barton et lui dit en se levant d'un ton de voix assez sec, « Je n'irai point, monsieur. Je suis décidée à n'y point aller. » Madame de Vernon n'essaie jamais de lutter contre les volontés de sa fille si positivement exprimées. Elle a dans le caractère une sorte de douceur et même d'indolence qui lui fait craindre toute espèce de discussion. Ce n'est jamais par un moyen de force de quelque nature qu'il soit qu'elle veut atteindre à son but. Sans répondre donc à Mathilde, elle s'adressa à moi et me dit « Ma chère Delphine, ce sera vous qui m'accompagnerez, n'est-ce pas? Nous irons avec M. Barton chez Léonce. » Je m'en défendis d'abord, quoique par un mouvement assez inexplicable, j'éprouvasse tant d'humeur du refus de Mathilde qu'il m'était doux d'opposer mon empressement à sa pruderie. Madame de Vernon insista. Elle s'inquiétait de la sorte de timidité dont elle est quelquefois susceptible avec une personne nouvelle. Elle craignait ses premiers mouvements dans lesquels Léonce pouvait se livrer à l'attendrissement. J'ai toujours vu Madame de Vernon redouter tout ce qui oblige à des témoignages extérieurs, lors même que son sentiment est véritable. On l'accuse de fausseté, et c'est cependant une personne tout à fait incapable d'affectation. Une réunion si singulière est-elle possible? Je ne le crois pas. Lorsqu'enfin je ne pus douter que Madame de Vernon ne désira vivement que j'allasse avec elle, j'y consentis. Cependant, quand nous fûmes en voiture, je me rappelai la lettre de Léonce à M. Barton, et il me vint dans l'esprit qu'un homme si délicat, sur tout ce qui tient aux convenances, trouverait peut-être un peu léger qu'une femme de mon âge vînt le voir ainsi chez lui sans le connaître. Cette pensée me blessa, et changea tellement ma disposition que je montais l'escalier de Léonce avec assez d'humeur. Mais, au moment où nous entrâmes dans sa chambre, lorsque je le vis étendu sur un canapé, pâle, pouvant à peine soulever sa tête pour me saluer, et néanmoins semblable en cet état à la plus noble, à la plus touchante image de la mélancolie et de la douleur, j'éprouvai à l'instant une émotion très vive. La pitié me saisit en même temps que l'attrait. Tous les sentiments de mon âme me parlaient à la fois pour ce malheureux jeune homme. Sa taille élégante avait du charme malgré l'extrême faiblesse qui ne lui permettait pas de se soutenir. Il n'y avait pas un trait de son visage qui, dans son abattement même, n'eût une expression séduisante. Je restai quelques instants debout derrière M. Barton et Mme de Vernon. Léonce adressa quelques remerciements aimables à ma tante avec un son de voix doux et cependant encore assez ferme. Sa manière d'accentuer donnait aux paroles les plus simples une expression nouvelle. Mais à chaque mot qu'il disait, sa pâleur semblait augmenter, et par un mouvement involontaire, je retenais ma respiration quand il parlait, comme si j'avais pu soulager et diminuer ainsi ses efforts. Nous nous assîmes. Il me vit alors. « Est-ce Mademoiselle de Vernon ? » dit-il à ma tante. « Non, répondit Madame de Vernon. Elle n'ose point encore venir vous voir. C'est ma nièce, Madame d'Albémar. » « Madame d'Albémar, reprit Léonce assez vivement, celle qui a bien voulu prêter sa voiture à M. Barton pour venir me chercher, celle qui a daigné s'intéresser à mon sort avant de me connaître. Je suis bien honteux, répéta-t-il en tâchant d'élever la voix, je suis bien honteux d'être si mal en état de lui témoigner ma reconnaissance. J'allais lui répondre lorsqu'en finissant ces mots, sa tête retomba sur sa main. Je fis un mouvement pour me lever et lui porter du secours. Mais, rougissant aussitôt de mon dessein, je me rassis et je gardai le silence. Léonce se tut aussi pendant quelques minutes. Tant de douceur et de sensibilité se peignaient alors sur son visage que j'oubliai entièrement l'opinion que j'avais eue de lui et qui pouvait garantir mon cœur. Mon attendrissement devenait à chaque instant plus difficile à cacher. Les yeux et les paupières noires de Léonce, accablés par son mal, se baissaient malgré lui. Mais quand il parvenait à soulever son regard et qu'il le dirigeait sur moi, il me semblait qu'il fallait répondre à ce regard, qu'il sollicitait l'intérêt, qu'il expliquait sa pensée, et je me sentais émue comme s'il m'avait longtemps parlé. N'ayez pas honte pour moi, ma Louise, de cette impression subite et profonde. C'est la pitié qui la produisait, j'en suis sûre. Votre Delphine ne serait pas ainsi, dès la première vue, accessible à l'amour. C'était la douleur, la toute-puissante douleur, qui réveillait en moi le plus fort, le plus rapide, le plus irrésistible des sentiments du cœur, la sympathie. Léonce s'aperçut, je crois, de l'intérêt que je prenais à sa situation. Quoique je n'eusse pas parlé, c'est moi qui le rassura. « Ce n'est rien, dit-il, madame. La fatigue de la route a rouvert ma blessure, mais elle est maintenant refermée, et dans quelques jours je serai mieux. » Je voulus essayer de lui répondre, mais je craignais qu'en parlant ma voix ne fût trop altérée. Et j'interrompis ma phrase sans la finir. Madame de Vernon lui demanda des nouvelles de Madame de Mondeville, lui dit quelques mots aimables sur l'impatience qu'elle avait de le voir. Il répondit à tout d'un ton abattu, mais avec grâce. Madame de Vernon, craignant de le fatiguer, se leva, lui prit la main affectueusement et donna le bras à M. Barton pour sortir. Je m'avançai après elle, voulant enfin prendre sur moi d'exprimer mon intérêt à M. de Mondeville. Il se leva pour me remercier avant que je pusse l'en empêcher et voulut faire quelques pas pour me reconduire. Mais un étourdissement très effrayant le saisit tout à coup. Il cherchait à s'appuyer pour ne pas tomber. Je lui offris mon bras involontairement et sa tête se pencha sur mon épaule. Je crus qu'il allait expirer. Ah, ma Louise, qui n'aurait pas été troublée dans un tel moment? Je perdis toute idée de moi-même et des autres. Je m'écriai, « Ma tante, venez à son secours, regardez-le, il va mourir !» Et mon visage fut couvert de larmes. Monsieur Barton se retourna précipitamment, soutint Léonce dans ses bras et le reconduisit jusqu'au sofa. Léonce revint à lui, il ouvrit les yeux avant que j'eusse essuyé mes pleurs, et les regards les plus reconnaissants m'apprirent qu'il avait remarqué mon émotion. Je m'éloignai alors, et Madame de Vernon me suivit. Il faisait nuit quand nous revînmes. Elle ne put, je crois, s'apercevoir de la peine que j'avais à me remettre. Et d'ailleurs, n'était-il pas naturel que je fusse inquiète de l'état où j'avais vu Léonce? J'appris à la porte de Madame de Vernon que Monsieur de Serbelane était venu me demander deux fois, et je me servis de ce prétexte pour rentrer chez moi. Je m'y suis renfermée pour vous écrire. Après ce récit, ma chère Louise, vous tremblerez pour mon bonheur. Cependant, n'oubliez pas combien la pitié a eu de part à mon émotion. L'intérêt qu'inspire la souffrance trompe une âme sensible. Il peut arriver de croire qu'on aime lorsque seulement on plaint. Cependant, je n'accompagnerai plus Madame de Vernon chez Monsieur de Mondeville. Il connaîtra bientôt Mathilde, il sera frappé de sa beauté, et je pourrai le voir, alors, avec les sentiments que me commandent la délicatesse et la raison. Mon ami, ma chère Louise, je suis déjà plus calme. Mais c'est un malheur que de l'avoir vu ainsi, entouré de tout le prestige du danger et de la souffrance. Pourquoi le mari de Mathilde ne s'est-il pas d'abord offert à moi, au milieu de toutes les prospérités qui l'attendent? Qu'avait-il à faire de ma pitié? Lettre 21. Léonce à Monsieur Barton. Ce 1er juin. Ma mère me mande, mon cher Barton, qu'elle vous écrit pour vous charger de quelques affaires à Mondeville qu'il faut terminer, dit-elle, avant mon mariage. Je voudrais bien que vous ne participiez pas encore pour cette terre. C'est à votre réveil que vous avez coutume de régler vos projets. Mon domestique vous portera cette lettre demain à 8 heures dans votre nouveau logement. Vous ne me direz donc pas que vos arrangements étaient pris pour partir et que vous ne pouvez plus y rien changer. Dans quelques jours, je pourrai sortir et l'on me montrera enfin Mademoiselle de Vernon. Peut-on regarder un mariage comme décidé quand on n'a jamais vu celle qu'on doit épouser? Ah, que vous aviez raison de me parler de Madame d'Albémare comme de la plus charmante personne du monde. Vous m'avez vanté le charme de son entretien, la noblesse et la bonté de son caractère. Mais vous n'auriez pu me peindre la grâce enchanteresse de sa figure, cette taille svelte, souple, élégante, ses cheveux blancs qui couvrent à moitié des yeux si doux et en même temps si animés, cette physionomie mobile et cet air d'abandon plus pur, plus modeste, plus innocent encore qu'une réserve austère. J'étais entre la mort et la vie quand je l'entendis crier « Ah, ma tante, venez, venez, il va mourir !» Je crus pendant un moment avoir déjà passé dans un autre monde et que c'était la voix des anges qui réveillait mon âme au bonheur des immortels. Quand j'ouvris les yeux, Delphine ne s'attendait point à mes regards et tout son visage exprimait encore une compassion céleste. Elle s'éloigna, mais je n'oublierai jamais sa physionomie dans cet instant. Ô pitié, douce pitié, s'il suffit de ton émotion pour la rendre si belle, que serait-elle donc si l'amour répandait son charme sur ses traits? Oui, mon ami, chacune des grâces de cette figure est le signe aimable d'une qualité de l'âme. Sa taille qui se balance et se plie mollement quand elle marche, comme si ses pas avaient besoin d'appui. Ses regards, qui peignent une intelligence supérieure, et cependant un caractère timide. Tout exprime en elle ce rare contraste que vous m'aviez vous-même indiqué lorsque, dans notre voyage, vous me disiez qu'elle réunissait un esprit très indépendant à un cœur dévoué et facilement asservi quand elle aime. C'est ainsi que vous m'expliquiez son amitié presque soumise pour Madame de Vernon. N'allez pas vous reprocher, mon cher Barton, l'impression que Madame d'Albémare m'a faite. Je n'ai rien appris de vous. Ce sont ses regards qui m'ont tout dit. Ne croyez pas, cependant, que je me livre sans réflexion à l'attrait qu'elle m'inspire. Je sais quels sont mes devoirs envers ma mère. Je n'ai point encore examiné la force des engagements qu'elle a pris avec Madame de Vernon, jusque à quel point il me lie. Mais je ne vous cache point que depuis que j'ai vu Madame d'Albémare, il me serait odieux de me prononcer que je ne suis plus libre. Il se peut que je ne le sois plus, mais laissez-moi le temps d'en juger moi-même. Mon cher maître, si de la manière la plus indirecte, je crois l'honneur de ma mère intéressée à mon mariage avec Mademoiselle de Vernon, il sera fait, vous n'en doutez pas. Pourquoi craindriez-vous donc de m'aider à gagner du temps? Adieu, je vous attends ce matin. Mais je suis bien aise de vous avoir écrit tout ce que contient cette lettre. Vous le savez à présent, et il m'en aurait coûté de vous le dire. Lettre 22. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, ce 3 juin. Léon sait beaucoup mieux. Il sortira bientôt. Je ne l'ai pas revu. Madame de Vernon est retournée seule chez lui. Je ne l'aurais pas suivie, mais elle ne me l'a pas proposé. Je n'ai pas non plus aperçu M. Barton. Il a quitté Léonce pour ses affaires, qui sont sans doute les affaires du mariage. Quand je reverrai M. de Mondeville, ce sera peut-être pour signer son contrat, comme parente de son épouse. Ma Louise, Léonce m'est apparu comme un songe, et le reste de ma vie n'en sera point changé. Qui pense à l'impression qu'il m'a faite, ni lui, ni personne? Alors, il ne faut plus vous en entretenir. J'ai été, d'ailleurs, vivement occupée par l'arrivée de Thérèse. M. de Serbellane est venu ce matin chez moi pour me l'annoncer. Il était abattu. Et, malgré l'habitude qu'il a prise de contenir toutes ses impressions, ses yeux se remplissaient quelquefois de larmes. Il me conjura de venir voir Madame d'Hervin. Hélas, me disait-il, elle se perdra. Son âme est agitée par l'amour et le remords, avec une telle violence qu'elle peut se trahir à chaque instant devant son mari, devant l'homme le plus irritable et le plus emporté. Si elle voulait le fuir avec moi, il y aurait quelque chose de raisonnable dans son exaltation même. Mais par une funeste bizarrerie, la religion la domine autant que l'amour, et son âme faible et passionnée s'expose à tous les dangers des sentiments les plus opposés. Elle peut aujourd'hui même avouer sa faute à son mari et demain s'empoisonner s'il nous sépare. Malheureuse et touchante personne, pourquoi l'ai-je connue? Je vais la voir, lui dis-je. Ses soins me sauvèrent la vie. Ne pourrais-je donc rien pour son bonheur ? J'arrivai chez Madame Dervin. La pauvre petite se jeta dans mes bras en pleurant. Je n'avais pas encore vu son mari, et son extérieur confirma l'opinion qu'on m'avait donnée de lui. Il me reçut avec politesse, mais avec une importance qui me faisait sentir, non le prix qu'il attachait à moi, mais celui qu'il mettait à lui-même. Il m'offrit à déjeuner, et notre conversation fut contrainte et gênée, comme elle doit toujours l'être avec un homme qui n'a de sentiments vrais sur rien, et dont l'esprit ne s'exerce qu'à la défense de son amour-propre. Il me parla continuellement de lui, sans remarquer le moins du monde si mon intérêt répondait à la vivacité du sien. Quand il se croyait prêt à dire un mot spirituel, ses petits yeux brillaient à l'avance d'une joie qu'il ne pouvait réprimer. Il me regardait, après avoir parlé, pour juger si j'avais su l'entendre. Et lorsque son émotion d'amour-propre était calmée, il reprenait un air imposant par égard pour son propre caractère. Passant tour à tour des intérêts de son esprit à ceux de sa considération, et secrètement inquiet d'avoir été trop badin pour un homme sérieux ou trop sérieux pour un homme aimable. Après une heure consacrée au déjeuner, il se leva et m'expliqua lentement comment des affaires indispensables que la bonté de son cœur lui avait suscitées, des visites chez quelques ministres qu'il ne pouvait retarder sans craindre de les offenser grièvement, l'obligeaient à me quitter. Je vis qu'il me regardait avec bienveillance pour adoucir la peine que je devais ressentir de son absence. J'aurais eu envie de le tranquilliser sur le chagrin qu'il me supposait, mais ne voulant pas déplaire au mari de mon ami, je lui fis la révérence avec l'air sérieux qu'il désirait, et son dernier salut me prouva qu'il était content. Resté seul avec Thérèse, je réunis tout ce que la raison et l'amitié peuvent inspirer pour lui faire goûter de sages conseils. Mais ses larmes, ses regrets, ses résolutions combattues et démenties sans cesse me firent éprouver une profonde pitié. Elle n'a point reçu cette éducation cultivée qui porte à réfléchir sur soi-même. On l'a jetée dans la vie avec une religion superstitieuse et une âme ardente. Elle n'a lu, je crois, que des romans et la vie des saints. Elle ne connaît que des martyrs d'amour et de dévotion, et l'on ne sait comment l'arracher à son amant sans la livrer à des excès insensés de pénitence. La crainte de cesser de voir M. de Serbellane est la seule pensée qui puisse la contenir. Si on l'obligeait à se séparer de lui, elle avouerait tout à son mari. Elle a beaucoup d'esprit naturel, mais il ne lui sert qu'à trouver des raisons pour justifier son caractère. Elle aime sa fille, mais sans pouvoir s'occuper de son éducation. Cette pauvre enfant, en voyant pleurer sa mère tout le jour, est dans un état d'attendrissement continuel, qui nuit à ses forces morales et physiques. Et M. Dervin ne se doute de rien au milieu de toutes ces scènes. Quand il surprend sa femme et sa fille en larmes, il leur demande pardon de les avoir trop peu vus, d'être resté trop longtemps dans son cabinet ou chez des amis, et il leur promet de ne plus s'éloigner à l'avenir. Cet aveuglement pourrait durer dans la retraite, mais à Paris, il se rencontre tant de gens qui ont envie d'humilier un sot ou d'irriter un méchant homme. J'ai peint à Thérèse quelle serait sa situation si M. Dervin faisait tomber sur elle sa colère et son despotisme. Que deviendrait-elle sans parents, sans fortune, sans appui? Elle me répond alors que son dessein est de s'enfermer dans un couvent pour le reste de sa vie. Et si je lui dis qu'il vaudrait peut-être mieux que M. de Serbellane allât passer quelque temps au Portugal auprès d'un de ses parents, comme c'était son projet en quittant l'Italie, elle tombe à cette idée dans un désespoir qui me fait frémir. Ah, Louise, Quelle douleur que celle de l'amour! Pauvre Thérèse! En l'écoutant, mon âme n'était point uniquement occupée d'elle. Je pensais à Léonce, à ce que j'aurais pu souffrir. De quel secours me serait un esprit plus éclairé que celui de Thérèse? La passion fait tourner toutes nos forces contre nous-mêmes. Mais écartons ces pensées. C'est de ma malheureuse amie que je dois m'occuper. Le ciel, en récompense, se chargera peut-être de mon sort. Monsieur d'Hervin rentra, et monsieur de Sorbelane vint quelques moments après. Thérèse nous retint. Je vis avec plaisir, pendant le reste de la journée, que monsieur de Sorbelane n'avait point cherché à se lier avec monsieur d'Hervin. Plus il était facile de captiver un tel homme en flattant sa vanité, plus je sus gré à l'ami de Thérèse de n'être pas devenu celui de son époux. Il est des situations qui peuvent condamner à cacher les sentiments qu'on éprouve, mais il n'y a que l'avilissement du caractère qui rende capable de feindre ce que l'on n'a pas. Mon estime pour M. de Sorbelane s'accrut donc encore par sa froideur avec M. d'Hervin. Il m'intéressait aussi par le soin qu'il mettait à veiller continuellement sur les imprudences de Thérèse. Elle rougissait et pâlissait tour à tour quand on prononçait le nom du Portugal. M. de Sorbelane détournait à l'instant la conversation et protégeait Thérèse, sans néanmoins la blesser, en se montrant indifférent à son amour. Je fus cruellement effrayée de l'état où je la voyais. Je la pris à part avant de la quitter, et je lui fis remarquer la délicatesse de la conduite de son amie et l'inconséquence de la sienne. « Je le sais, me répondit-elle, c'est le meilleur et le plus généreux des hommes. » Je lui suis bien à charge, sans doute. Je ferai mieux de délivrer de moi ceux qui m'aiment, d'aller me jeter aux pieds de M. d'Hervin et de lui tout avouer. En prononçant ces paroles, ses regards se troublaient. Je craignais qu'elle ne voulût accomplir ce dessein à l'heure même. Je la serrai dans mes bras, et je lui demandai la promesse de s'en remettre entièrement à moi. « Écoutez, me dit-elle, je suis poursuivie par une crainte, qui est, je crois, la principale cause de l'égarement où vous me voyez. Je me persuade qu'il se croira obligé de partir sans m'en avertir, ou que mon mari me séparera de lui tout à coup, avant que j'aie pu lui dire adieu. Si vous obtenez de M. de Sorbelane le serment qu'il ne s'en ira jamais sans m'avoir prévenu, et si vous me donnez votre parole de me prêter votre secours pour le voir une heure seulement, une heure, quoi qu'il arrive, avant de le quitter pour toujours, alors je serai plus tranquille. Je ne croirai pas, chaque fois qu'il me parlera, que ce sont les derniers mots que j'entendrai jamais de lui. Je ne serai pas sans cesse agitée par tout ce que je voudrais lui dire encore. Je serai calme. Eh bien, lui répondis-je avec chaleur, à l'instant même vous allez être satisfaite. M. d'Hervin parlait à un homme qui l'écoutait avec la plus grande condescendance. Il ne pensait point à nous. J'appelai M. de Sorbelane. Il promit solennellement ce que désirait Thérèse. Je l'assurai moi-même, aussi, que je lui ferais avoir, de quelque manière, un dernier entretien avec M. de Sorbelane, si jamais M. d'Hervin lui défendait de le revoir. En donnant cette promesse, je ne sais quelle crainte me troubla. Mais avant de connaître Léonce, je n'aurais pas seulement pensé qu'un tel engagement pouvait un jour me compromettre. Je m'applaudis cependant de l'avoir pris, en voyant à quel point il avait raffermi le cœur de Thérèse. Elle m'entendit parler avec résignation des circonstances qui pourraient obliger M. de Sorbelane à s'éloigner, et quand je la quittai, elle me parut tranquille. Je n'allai point le soir chez Mme de Vernon. Il ne m'était pas permis de lui confier le secret de Thérèse. Je ne pouvais lui parler de Léonce. Et comment éloigner d'une conversation intime les idées qui nous dominent? c'est causer avec son ami comme avec les indifférents. Chercher des sujets de conversation au lieu de s'abandonner à ce qui nous occupe et se garder, pour ainsi dire, des pensées et des sentiments dont l'âme est remplie. Il vaut mieux alors ne pas se voir. Pour vous, ma Louise, à qui je ne veux rien taire, je n'éprouve jamais la moindre gêne en vous écrivant. Je m'examine avec vous, je vous prends pour juge de mon cœur, et ma conscience elle-même ne me dit rien que je vous laisse ignorer.